rozumiem tu Europę.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromitis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. La commission von der Leyen a pris ses fonctions dimanche dernier avec un mois de retard, ce qui, au regard de l'histoire, est bien peu de choses. C'est la première fois depuis sa création qu'une femme préside la commission européenne. Par rapport à la commission Juncker, elle compte un commissaire de moins. Les Britanniques, pourtant formellement encore dans l'Union européenne, ont préféré ne pas présenter de candidat. C'est une commission presque paritaire avec 12 femmes. C'est en fait une commission qui se veut ambitieuse, qui a défini 6 priorités que nous allons bien sûr évoquer. Mais c'est aussi une commission qui devra se confronter à un Parlement sans majorité stable, conséquence des dernières élections européennes de mai dernier. Je vous présente les invités qui nous ont rejoints. Bonjour Aline Robert.
Bonjour.
Vous êtes la rédactrice en chef du site euractiv.fr, en deux mots euractiv.fr.
Donc c'est un site d'information sur les questions européennes.
Voilà, très pointu.
C'est un site qui traite des grands sujets européens, donc énergie, climat, politique et tous les sujets industriels. Et donc nous, on est la partie française d'une rédaction qui est en 12 langues en Europe.
Presque comme RFI qui parle 16 langues. Yann Saltoff, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du bureau de Paris de la fondation Energible. En quelques mots, une fondation très proche des Verts allemands.
C'est une des fondations politiques allemandes, on en a plusieurs, c'est celui qui est proche des Verts allemands, oui, et c'est aussi une fondation qui, depuis assez longtemps, travaille beaucoup sur des questions européennes.
Et donc forcément, d'écologie, on aura l'occasion d'y revenir, puisqu'on va parler à un moment du Green Deal européen, tôt ou tard, on va en parler. Bonjour Éric Maurice.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du bureau de Bruxelles de la fondation Robert Schuman, évidemment par définition une fondation très très européenne. Merci d'être en ligne du studio RFI de Bruxelles.
Nous travaillons pour une Europe qui est forte, qui est unie, une Europe ambitieuse en ce qui concerne le climat, en ce qui concerne la numérique, bien sûr l'économie, la croissance, mais également la sécurité et la défense. Et je crois qu'il est important que cette Europe prenne sa place dans ce monde. Une Europe qui a des relations fortes avec son voisin l'Afrique, qui va établir des relations stables transatlantiques. Une Europe qui a une vraie stratégie en ce qui concerne la Chine ou vis-à-vis la Russie. Pour tout ça, il nous faut une Europe unie, une Europe forte.
Ursula von der Leyen, non pas au Parlement européen, mais lors de sa rencontre à Paris avec Emmanuel Macron, c'était fin juillet dernier. Alors, on va bien sûr revenir dans quelques instants sur les ambitions de la commission von der Leyen, mais quelques mots sur la présidente et sur cette commission. Aline Robert, le seul fait qu'elle soit présidée par une femme donne déjà une impression de renouveau. C'est un point de vue que vous partagez ?
Tout à fait, je pense que c'est un élément crucial, le fait que l'Europe soit présidée par une femme. C'est jamais arrivé, c'est une première. En plus, on est dans une situation géopolitique un petit peu compliquée et face à Poutine d'un côté, Trump de l'autre aux États-Unis, je pense que le fait que l'Europe exprime aussi quelque chose en mettant une femme à sa tête, c'est quelque chose qui peut marquer des points et surtout qui peut inciter les citoyens européens à se reconnaître peut-être un peu plus dans cette institution.
Éric Maurice, ça avait commencé un peu laborieusement la commission von der Leyen. D'abord, elle a été adoubée par 9 voix de majorité seulement, c'est pas beaucoup. Et puis, il y a eu ces 3 commissaires qui ont été recalés. Alors, on en a beaucoup parlé sur le coup. Comme je dis, au regard de l'histoire, c'est peu de choses.
Oui, c'est très peu de choses. Alors, au mois de juillet, c'était le vote sur la personne même d'Ursula von der Leyen. C'était un mouvement de mauvaise humeur des députés européens, puisque les partis politiques européens voulaient que la présidence de la Commission revienne à une de leurs têtes de liste, ce qu'on appelle Spitzenkandidat en langage bruxellois. Et aucun de ces têtes de liste, que ce soit du centre-droit ou socialiste ou libéral, n'avait été choisi par les chefs d'État et de gouvernement. Donc les députés européens, c'était un vote à bulletin secret, avaient fait preuve de leur mauvaise humeur, et cette mauvaise humeur, on l'a retrouvée aussi lors des auditions des commissaires désignés, puisque 3 commissaires ont été rejetés par le Parlement européen, un centre-droit, un socialiste et un libéral. Donc on est revenu balle au centre, 3 nouveaux commissaires qui ont été très rapidement approuvés au mois de novembre, et donc la commission est là. Elle a été approuvée par le Parlement européen fin novembre avec une majorité assez confortable. Et donc aujourd'hui, on peut commencer à travailler et à revenir avec cette question des équilibres politiques plutôt précaires au Parlement européen qui sera une des questions les plus cruciales pour Ursula von der Leyen.
Nous allons évidemment poursuivre notre débat, mais avant, nous allons faire un petit détour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Sacha Michel.
Bonjour Daniel.
Le quotidien allemand Die Welt a consacré un long papier sur les défis qui attendent Ursula von der Leyen. Et pour réussir, il lui faudra être visionnaire et pragmatique, explique Die Welt.
Et oui, ça y est, avec un mois de retard, la nouvelle présidente de la Commission a entamé son mandat. Et autant vous dire que le contexte est particulièrement hostile. C'est le journal allemand Die Welt qui le souligne. Donc, terminé la balade de santé qui était le passage de von der Leyen au ministère de la Défense à Berlin. Là, c'est une autre paire de manches. Contrairement à ses deux prédécesseurs, Barroso et Juncker, l'Allemande prend ses fonctions dans une UE en pleine crise. L'euro vacille toujours. La fragmentation de l'Union entre Est et Ouest et entre Nord et Sud s'accentue dangereusement. La question migratoire n'est toujours pas tranchée. Les ambitions climatiques sont insuffisantes. En gros, la liste est encore longue. Elle doit aussi faire avec un Parlement européen sans majorité stable. Deux vice-présidents, le social-démocrate Timmermans et la libérale Vestager, très ambitieux et sûrs d'eux-mêmes. Et puis, il y a aussi le facteur Macron, le président français, qui ne la lâche pas d'une semelle et qui tente d'imposer sa vision de l'Europe avec une mutualisation des responsabilités, un assouplissement des règles budgétaires et une révision à la hausse des transferts des États membres les plus riches vers les plus pauvres.
Et donc pour Die Welt, il faut qu'Ursula von der Leyen se libère de l'étreinte d'Emmanuel Macron.
Absolument Daniel, et ça sera compliqué selon le journal berlinois. Pour y parvenir, Ursula von der Leyen devra redéfinir l'arithmétique du pouvoir en Europe et démanteler en priorité le moteur franco-allemand. Cet anachronisme dysfonctionnel, comme l'écrit Die Welt. Un démantèlement qui doit aboutir à un rééquilibrage des pouvoirs et à une participation accrue des Européens de l'Est et des plus petits États membres. D'ailleurs, l'un des enjeux pour elle, ce sera de montrer qu'elle ne roule pas pour les Allemands, afin de faire mentir ceux qui pensaient que sa nomination était une victoire pour Berlin. Reste que ces dernières semaines, Ursula von der Leyen a montré qu'elle avait tout pour imposer sa patte et qu'elle avait aussi de l'ambition. Son engagement en faveur d'un salaire minimum européen, son plaidoyer pour une assurance chômage européenne et pour un assouplissement du pacte de stabilité donne déjà un avant-goût de sa ligne politique. Pour réussir son mandat, l'Allemand doit garder la tête froide, conclut Die Welt, c'est la clé, et choisir ses batailles pour ne pas se perdre en ouvrant trop de fronts à la fois.
Merci Sacha Michel, Courrier International Libdo et courrierinternational.com, le site. Jens Althoff, alors c'est vrai que elle a été adoubée par Emmanuel Macron et elle est aussi évidemment une fidèle d'Angela Merkel qui pendant un moment on a même cru qu'elle était sa dauphine. Il va falloir qu'elle se libère de ces deux parrains marraines pour exister en Europe, Jens Althoff.
Oui, je crois pas seulement de ces deux, mais c'est vrai, c'est une des vraiment les plus proches fidèles d'Angela Merkel. C'était justement une ministre qui est la seule, qui était là dès le début, vraiment. Et maintenant, Merkel est le gouvernement depuis 14 ans, quand même, en Allemagne. Donc, c'était la plus fidèle. Et aussi, toute sa carrière était très clairement soutenue par Angela Merkel. Donc, c'est sûr que c'est une très fidèle. Et c'est aussi très clair que Emmanuel Macron a joué un rôle clé qu'elle est devenue présidente. Par contre, il faut aussi pas oublier, là, je dois dire, j'étais quand même un peu étonné à quel point Emmanuel Macron, il a traité Ursula von der Leyen comme une sorte de mauvaise élève, après le fait que Sylvie Goulard n'était pas confirmée par le Parlement, ce qui est quand même pas aussi la tâche de Ursula von der Leyen de faire ça, mais il a vraiment traité de façon, on a pensé, est-ce que c'est quand même la présidente de la nouvelle commission, donc justement, vu ça, j'espère, et c'est la question qui va être une des questions principales, est-ce qu'elle va être vraiment capable d'avoir un espace indépendant? Est-ce qu'elle va vraiment être indépendante? Parce que ça, c'est ça, l'idée de la commission, c'est quand même être une institution européenne. Et alors, pas une autre, quand même, conseil, qui représente les États. C'est justement le contrepoids. Et là, je suis pas complètement sûr que vraiment, on va voir ça.
Bon, alors, pour expliquer un petit peu, Emmanuel Macron s'était montré très étonné que Sylvie Goulard soit retoquée par le Parlement. Il avait en gros fait affaire avec Ursula von der Leyen et avec Angela Merkel. Il pensait que ça allait passer sans problème au Parlement. Il a sous-estimé le rôle du Parlement européen. Il l'a pris un petit peu peu à ses dépenses et un petit peu ce qui s'est passé. Aline Robert, la commission ne voit de majorité pour la présidente Ursula von der Leyen, mais une commission qu'elle a présentée avec donc au total 27 membres et pas 28, qui a été, alors pour le coup, très très bien élue, 461 voix contre 157. Qu'est-ce qui explique cette différence? Une présidente finalement pas très bien élue et puis une commission confortablement élue.
Alors, effectivement, Éric Maurice l'a souligné tout à l'heure, au mois de juillet, on était dans une situation politique un peu différente, dans laquelle il y avait une séquence où le Parlement avait tenté d'imposer son système de Spitzenkandidat. Vous savez, quand le principal candidat d'un parti obtient automatiquement la présidence de la Commission européenne, c'était quelque chose auquel la droite, la gauche et les Verts, notamment, tenaient beaucoup. Et en fait, les chefs d'État n'ont pas été d'accord pour suivre cette logique qui aurait conduit à mettre Manfred Weber, le principal candidat de la droite, qui est allemand, à la tête de la Commission européenne. Et en fait, les chefs d'État ne se sont pas mis d'accord là-dessus. Et effectivement, notamment Emmanuel Macron refusait que ce soit lui qui soit président de la Commission européenne. Les autres députés, même des autres partis, soutenaient cette théorie. Et du coup, ils ont manifesté leur mécontentement.
Mais quand est venu le moment de voter pour la Commission, finalement, les députés se sont dit, elle n'est pas si mal que ça, cette Commission
Alors, après, quand on regarde la formation de la Commission, parce que entre le mois de juillet et maintenant le mois de décembre, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le processus de nomination des commissaires qui a été visiblement relativement rigoureux. C'est-à-dire que Ursula von der Leyen a demandé à tous les pays deux candidats, un homme et une femme. Ensuite, elle a eu le choix et essayé d'avoir un maximum de femmes dans son équipe. Au final, c'est pas tout à fait le cas, notamment à cause de la France. Alors nous, effectivement, notre candidate a été recalée et du coup, on a trouvé un homme.
On avait une candidate et on a finalement un candidat.
Oui, mais je voudrais pas dire sur la population française, on aurait sans doute quand même pu trouver une femme puisqu'on nous le demandait. Mais bon, on a quand même au final une équipe avec 15 hommes et 12 femmes, ce qui est mieux que ce qu'on n'a jamais vu. Et puis surtout, on a une équipe où il y a 10 PPE, donc 10 représentants de la droite, 9 représentants des sociaux-démocrates, qui, du coup, les sociaux-démocrates, ils se sont sentis tout d'un coup
exister,
monter à bord de cette nouvelle équipe. 5 libéraux et un vert. Donc en fait, il y a un petit peu, ça a été aussi équilibré de façon à ce que beaucoup de eurodéputés soutiennent cette commission. Je soulignerai juste une chose, c'est que en France, on a la droite et le centre, donc le parti Renew de Emmanuel Macron qui a soutenu. Les autres ont fait partie des pays les plus rebelles, c'est-à-dire l'extrême gauche, l'extrême droite. Les Verts et les socialistes ont soit voté contre, soit se sont abstenus.
Alors, pour mémoire, le commissaire français qui a remplacé Sylvie Goulard au pied levé, on est tenté de le dire, s'appelle Thierry Breton. Il a hérité d'un énorme portefeuille. On aura l'occasion d'y revenir. Éric Maurice, finalement, on a l'impression que cette commission, elle est très européenne. Les pays eurosceptiques de l'Europe centrale, finalement, n'ont pas voulu jouer la fronde avec la commission. Et ils ont envoyé les uns et les autres des commissaires eurocompatibles. C'est le cas de la Tchèque Vera Jourova, du Polonais Janusz Wojciechowski, je ne sais pas, je ne pense pas que je le prononce très très bien son nom, et même le Hongrois Oliver Vahely, là encore je ne suis pas sûr de la prononciation. Mais finalement une commission plutôt européenne.
Oui, c'est ça qui est intéressant, puisqu'il y avait des craintes au-delà du score des populistes anti-européens au Parlement européen, que les gouvernements envoient entre guillemets leurs hommes et leurs femmes à Bruxelles pour perturber ou en tout cas influer sur le travail de la Commission. Alors, côté hongrois et même côté roumain, les deux commissaires qui ont été présentés d'abord ont été rejetés. Donc, il a fallu que ces deux gouvernements trouvent quelqu'un d'autre. Côté hongrois, on a choisi une option toute simple, c'est l'ancien ambassadeur. Jusqu'à il y a deux semaines, il était ambassadeur de Hongrie auprès de l'UE, donc il participait à toutes les réunions de diplomates. Donc, il connaît très bien la machine bruxelloise, tout en étant fidèle au Premier ministre Orban. Et puis surtout, on a évité un commissaire de la Ligue italienne ou du Parti 5 étoiles, puisque le gouvernement italien anti-européen a chuté au mois d'août. Et ça, c'était un grand soulagement à Bruxelles. Et donc, on se retrouve avec une équipe qui est plutôt euro-compatible. Mais Il ne faut pas oublier que dans les traités, le poste de commissaire est défini comme il faut quelqu'un qui ait un engagement européen, qui soit indépendant de tous les pouvoirs, donc du pouvoir de son gouvernement. Donc quelqu'un qui aurait été trop marqué du parti PiS en Pologne ou du parti Fidesz en Hongrie ou de la Ligue en Italie n'aurait peut-être pas d'abord été accepté par la présidente de la commission et surtout n'aurait jamais rempli les critères nécessaires pour passer l'audition au Parlement. Donc finalement, les gouvernements sont un petit peu obligés de composer avec les institutions telles qu'elles existent et non pas telles qu'ils voudraient qu'elles soient. Donc on le ressent dans la composition de la commission.
Alors la grande nouveauté dans les relations qu'il va y avoir entre la Commission européenne et le Parlement, c'est que la majorité a changé jusqu'à le précédent Parlement. La majorité, c'était assez simple, il y avait le PPE, c'est-à-dire les conservateurs européens et les sociodémocrates européens, et à eux deux, ils formaient une majorité et ils gouvernaient, entre guillemets, l'Europe, tantôt les uns, tantôt les autres, mais en tout cas sans grande altercation. Et puis, au lendemain de ces élections européennes, il y a un troisième larron qui est entré en scène, les libéraux du groupe Renew, de Renaissance en français, donc là, c'est là que les députés d'Emmanuel Macron siègent, et cela change pas mal de choses, Éric Maurice.
Oui, la donne politique a fondamentalement changé après les élections européennes. Le PPE, donc centre droit, et SD, centre gauche, n'ont plus la majorité absolue à eux deux au Parlement européen. Renew, donc les libéraux auxquels se sont adjoints les macronistes, sont une force d'appoint ou en tout cas une force qui peut faire basculer les majorités et influer sur les votes. Et puis il y a les Verts aussi, qui sont le quatrième groupe, qui aussi joue ce rôle-là. Et on l'a vu dans la définition du programme d'Ursula von der Leyen, le verdissement des objectifs de l'Union européenne, notamment cet objectif de neutralité carbone en 2050, les aspects sociaux aussi, qui n'étaient pas forcément présents, alors d'une part pas dans le programme du PPE auquel appartient Ursula von der Leyen, et donc ces objectifs n'étaient pas encore clairs dans les priorités européennes, et donc sous la pression des socialistes, des libéraux et des verts, le programme de la Commission a donné des éléments un petit peu à tout le monde. Et aujourd'hui, il faudra voir maintenant comment la Commission met en œuvre son programme, quelles propositions elle met sur la table effectivement et comment elle se sortira des différences, des divisions entre les États membres d'un côté et des équilibres fragiles politiques au Parlement d'un autre côté.
Jens Althoff, est-ce que finalement la position des Verts sont satisfaits de cette composition? Parce que la majorité, elle se fait plutôt avec les conservateurs du PPE, les sociodémocrates du PSE, et puis les libéraux de Renew. Les Verts sont quand même un petit peu en dehors de cette majorité. Ça s'est fait pas forcément contre eux, mais en tout cas sans eux.
Non, ils sont très clairement en dehors de cette majorité. Cette nouvelle majorité, justement, avec les libéraux des dons, mais très clairement sont les Verts. Il y avait des négociations aussi avec von der Leyen, elle est aussi venue au groupe et tout. Et après, elle n'a pas assez proposé quand même. Les Verts n'ont ni voté pour von der Leyen, ils n'ont ni voté pour la nouvelle commission. Donc là, c'est très clairement qu'il y a quand même une distance. En même temps, ils sont dit, et ça c'est aussi quelque chose qui est quand même un peu spécifique pour les parlements européens, si on compare avec les parlements au niveau national.
Notamment le parlement français.
Oui, le français, donc, qui sont dit bien sûr que pour des projets qui vont dans une direction qui est importante pour les Verts, que là, ils pourraient bien sûr imaginer de le soutenir. Ils sont ouverts, donc c'est pour ça que, bien sûr, parce que c'est intéressant là, ce qui était cité avant, le journal Die Welt, le journal allemand, qui ont parlé des défis et tout, ils sont justement pas parlé du, il me semble quand même le plus grand défi presque en ce moment, c'est ce qui était mentionné là avant, c'est justement le Green New Deal, le paquet vert, donc vraiment ce défi, comment transformer l'Europe de façon que l'Europe soit être au minimum carbone neutre au plus tard 2050, sinon ça va être plus possible. D'ailleurs, vraiment, arriver à limiter le changement climatique au-dessous de 2 degrés, donc ça c'est un défi central, et là ça va être la grande question, qu'est-ce qu'elle va présenter von der Leyen dans 3 jours avec ce Green New Deal, et ça c'est quand même intéressant parce que le Green New Deal, ce terme, ça, c'est quelque chose qui était inventé par les Verts allemands pour la campagne européenne de 2009. Donc, ça vient de là, clairement.
On va évidemment parler du Green New Deal dans la deuxième partie de CAFRE l'Europe. Mais tout de suite, on va faire une pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Juste le temps de prendre connaissance des toutes dernières nouvelles de la planète. À tout de suite.
CAFRE
Souzemion tout d'Europe.
Raskrutcha Europei.
Stavrodromi tis Evropis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Rebonjour Carrefour de l'Europe, deuxième partie. La Commission européenne von der Leyen est la première présidée par une femme. C'est une commission qui se veut ambitieuse. Elle s'est par exemple engagée de faire de l'Europe le premier continent climatiquement neutre en 2050. Mais c'est aussi une commission fragile qui devra négocier en permanence avec le Parlement européen une majorité, conséquence des dernières élections européennes de mai dernier qui ont mis fin au duopole conservateur-sociodémocrate. On en a parlé dans la première partie de cette émission. Je vous représente les invités qui nous ont rejoints. Aline Robert est rédactrice en chef du site euractiv.fr, Jens Althoff est directeur du bureau de Paris de la fondation Heinrich Böll, proche des Verts, et Éric Maurice est le directeur du bureau de Bruxelles de la fondation Robert Schuman. Il est en ligne du studio RFI de Bruxelles. Alors, on a parlé évidemment de la présidente de la Commission. Il y a aussi un renouvellement complet des têtes européennes, il faut quand même le dire. Aline Robert, le Belge Charles Michel, 43 ans à la tête du Conseil européen, Josep Borrell, le haut représentant de l'Union européenne en charge des affaires étrangères et de la politique de sécurité, ça y est, je l'ai dit, et Christine Lagarde à la tête de la BCE. Il y a quand même un renouvellement complet des têtes européennes.
Oui, et ça c'est heureux, puisque Ursula von der Leyen et Charles Michel, Christine Lagarde et Josep Borrell ont l'occasion de recréer une nouvelle dynamique. Il y a deux femmes sur les quatre, c'est pareil, c'est quelque chose qui change, qui est quand même une Française aussi. On va avoir affaire à quelque chose de nouveau par rapport aux quatre vieux monsieur blancs qui étaient dans la précédente équipe autour de Jean-Claude Juncker. Donc ça, c'est effectivement un élément à prendre en compte. Et on voit qu'ils ont chacun commencé à donner un petit peu leur ligne prioritaire. Et Christine Lagarde, comme Ursula von der Leyen, sont toutes les deux sur une ligne dure sur les questions du climat et de l'économie européenne. C'est-à-dire qu'elles veulent toutes les deux favoriser la relance et une relance qui soit en faveur de la transition écologique. Donc là, on commence à avoir un petit peu des lignes de ce qui va pouvoir être fait, sachant que Charles Michel, lui, c'est un petit peu le monsieur loyal qui doit arrimer les autres chefs d'État au projet de l'équipe. Et puis, il y a cette grande question de la géopolitique avec le haut représentant Josep Borrell, donc, qui est le doyen de l'équipe de
oui,
la Commission.
Oui, 72 ans, si ouais, je ne dis pas
72
bêtises.
Ans.
Il ne les fait pas, il ne les fait pas.
Non, tout à fait. Et la présidente de la Commission a déclaré qu'elle voulait une commission géopolitique. Vous savez que la précédente équipe parlait d'une commission politique pour la première fois, elle, c'est géopolitique, donc vraiment, on se situe sur un...
Sur un autre... D'ailleurs, si on revient, la commission Barroso, c'était une commission avant tout technocratique, la commission Juncker s'est voulu politique, la commission von der Leyen se veut géopolitique, on va expliquer un peu ce que ça veut dire, mais je sens Jens Althoff bouillant de parler un petit peu du Green Deal, il en a déjà parlé un petit mot dans la première partie de l'émission. C'est vrai que c'est l'une des six priorités de la commission von der Leyen, même la première. On est encore un peu dans le flou, car le projet sera présenté dans 3 jours par Ursula von der Leyen. L'idée, c'est d'avoir une loi climat européenne avec pour objectif, un objectif ambitieux, la neutralité carbone de l'Union européenne en 2050. C'est-à-dire que en 2050, l'Union européenne ne devrait plus produire de carbone. En tout cas, il y aura un équilibre. Ça peut se faire comment, Jens Althoff?
Bon, ça, c'est vraiment au plus tard. Si on veut encore arriver, c'est déjà, je veux dire, l'objectif de l'accord de Paris est de limiter le réchauffement climatique, pour être précis, à 1,5 degré, c'est plus possible. Là, les experts disent déjà ça, on a déjà dépassé cette possibilité. Mais il y a encore la possibilité de limiter ce réchauffement climatique à au-dessous de 2 degrés.
Alors, ça, c'est le point. Comment s'y prendre lorsqu'on est à la tête de l'Union européenne? Quel type de mesures il faudra prendre, même si on ne connaît pas encore tout à fait le détail? Il faudra taxer les produits qui sont apportés et qui sont fabriqués dans des conditions
vraiment tout un catalogue de mesures, c'est très important, bien sûr tout le secteur de l'énergie qui est très important, il y a le secteur de transport d'ailleurs qui est un grand problème parce que là les émissions elles sont vraiment grandies autant en France qu'en Allemagne et d'ailleurs si on prend les deux grands pays aussi au sein de l'Union européenne. Il y a aussi bien sûr l'agriculture. D'ailleurs, il semble que, et ça va être une question clé, qui a quand même, von der Leyen a déjà quand même annoncé ou dit un peu à Bruxelles qu'elle voit pas que l'agriculture pourrait être dans le Green New Deal. Ça serait très étonnant, par exemple. Donc, il y a quand même tous les secteurs. Il y a la rénovation des bâtiments. Là, on sait qu'il y a déjà les idées. Il y a la question de l'économie circulaire. Donc, il y a vraiment beaucoup de secteurs où, justement, l'Europe a beaucoup de possibilités maintenant d'aller en avant et de faire une vraie loi climat qui est aussi réaliste à réaliser, parce qu'il faut aussi des mesures où ça va aller. Mais là, je vais dire quand même, je suis un peu, on va voir, dans trois jours, il y a des grandes attentes qui sont aussi suscitées par von der Leyen et par Frans Timmermans, qui a quand même une enveloppe très importante.
Frans Timmermans, c'est le premier vice-président de la Commission. C'est un Néerlandais socialiste.
Qui a fait sa campagne vraiment aux Pays-Bas autour de cette question de climat, qui a eu un très bon résultat aussi, qui n'était pas très... on doit dire quelqu'un qui s'est engagé beaucoup pour cette question dans la commission avant, mais il semble que maintenant il est décidé et qu'il veut vraiment le faire. Donc là, oui, mais il faut aussi voir une chose là, des dons. Et la commission veut proposer pas mal de choses et faire pas mal de choses, mais il me semble deux facteurs qui sont importants. Un facteur, c'est la majorité, dont on en a parlé, et je vais dire la majorité. Les sociodémocrates, ni les sociodémocrates, ni les conservateurs, ni les libéraux, jusqu'à maintenant, étaient les premiers acteurs pour une transformation écologique. Et la deuxième question, c'est qu'il faut aussi un vrai soutien des États membres, et surtout du couple franco-allemand. Et là, je veux dire, pardon, là, c'est juste la semaine dernière que quand même l'Agence européenne pour l'environnement a justement publié un rapport qui a montré très clairement que les pays en Europe sont très en retard pour les objectifs de baisser l'émission CO2, donc ils sont très en retard. Et là, il me semble que c'est vraiment au couple franco-allemand d'aller en avant et de montrer que c'est possible, soutenir ça. Et là, on est loin de ça. Il y a déjà une loi pour le climat, un paquet pour le climat en Allemagne, qui est quand même pas assez ambitieux. Il n'y a même pas un paquet comme ça en France jusqu'à maintenant. Donc, si même l'Allemagne et la France ne vraiment vont pas aller en avant, comment est-ce qu'on peut attendre que la Commission peut vraiment faire grand-chose là sur cette question?
Éric Maurice, vous qui êtes à Bruxelles, c'est-à-dire dans les couloirs des institutions européennes notamment, quelle forme pourrait prendre un peu techniquement, pratiquement, ce Green New Deal, comme on dit en français?
D'une part, Ursula von der Leyen a promis que dans les 100 jours, après sa prise de fonction, elle ferait une proposition pour inscrire dans la loi européenne cet objectif de neutralité carbone pour 2050. Et ensuite, de sa part, elle l'a déjà dit devant les députés européens fin novembre, la transition climatique recouvre tous les secteurs. Frans Timmermans travaillera, comme ça a été dit juste avant, avec les commissaires au transport, à l'énergie, à l'agriculture, en lien avec aussi la stratégie industrielle, la numérisation. Enfin, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est une remise en cause où on redessine totalement le modèle industriel européen. Et puis, il y a tout l'aspect social. Ursula von der Leyen veut créer un fonds de transition juste pour accompagner l'aspect social de cette transition. En gros, pour éviter un effet gilet jaune à l'échelle européenne. Et donc, de son point de vue, il va falloir lister un petit peu tous les domaines dans lesquels la transition va devoir se faire, tous les enjeux sur lesquels il va falloir présenter soit des textes concrets, soit réfléchir avec les pouvoirs publics, les investisseurs privés, les industries, la société civile, comment on peut mettre ça en œuvre. Et donc, c'est une sorte de cadre global de l'action des 5 années à venir qu'Ursula von der Leyen va présenter dans le 11 décembre. Avant la veille d'une discussion par les chefs d'État et de gouvernement de cet objectif climatique. Donc pour l'instant, on sent l'ampleur de la tâche et ce ne sera pas des annonces d'un seul coup là en début de mandat, c'est plutôt une grande feuille de route qui décrit un petit peu tous les domaines et toutes les pistes d'action qu'il va falloir explorer.
Yann Salter, vous dites ça peut être vraiment une très grande chance. Mais la question, est-ce que ça va être une très grande chance si c'est vraiment lié avec des investissements, qui manque beaucoup des investissements en Europe? Donc là, il y aurait la chance de justement de vraiment commencer avec une telle transformation, accélérer une telle transformation avec vraiment des investissements importants, ce qui n'est pas donné que l'Allemagne va être d'accord sur ça, d'ailleurs. Mais s'il y a vraiment des investissements, ça peut être justement une très grande chance aussi au niveau social pour l'Europe.
L'idée, par exemple, d'un plan Juncker qui a facilité l'investissement hein, au niveau climatique.
Oui, mais c'est pas seulement sollicité, là. Il y a deux choses. Surtout l'idée de Juncker, c'était plutôt solliciter aussi beaucoup des investissements privés, ce qui est aussi important. Mais là, il me semble qu'il faut aussi vraiment des investissements publics. Et il faut aussi la capacité que l'Europe peut faire ses investissements. Et là, il y a surtout aussi l'Allemagne qui est demandée de prendre plus des responsabilités et de contribuer plus.
Alors, sur ce sujet, d'un mot, Éric Maurice, puis après Aline Robert.
Oui, il y a deux aspects. La discussion budgétaire sur les 7 7 prochaines années qui se fait entre États membres avec une enveloppe réduite par le départ du Royaume-Uni. Et là, on voit que toutes les questions de recherche et même de climat risquent de pâtir de cette volonté de certains États, dont l'Allemagne, de réduire le budget européen. Par contre, la Commission, elle veut mettre en place une sorte de plan Juncker environnemental pour lever de manière publique et surtout privée jusqu'à 1000 milliards d'euros dans les 10 années à venir. Le plan Juncker, là, sur les 5 ans, c'est 450 milliards qui ont été levés. Donc, c'est potentiellement faisable. Mais effectivement, si on n'attend que des investissements publics, les objectifs ne seront jamais atteints. Il faut absolument cet investissement privé que la Commission veut essayer de lancer.
Aline Robert, un mot sur le Green Deal, puis après on passe à autre chose.
Non, je voulais juste souligner que dans les pistes potentielles pour parvenir à lever plus de fonds pour les questions climatiques, il y a celle-ci qui est souvent évoquée par la gauche, mais aussi un peu par les Verts et Renaissance, qui serait de sortir les investissements verts de la contrainte budgétaire, vous savez, des 3%, ce qui permettrait effectivement aux États, au niveau national, de contribuer nettement plus aux énergies renouvelables, à la rénovation énergétique et à tout ce qui va nous permettre d'espérer arriver à réduire l'impact du réchauffement climatique.
Alors, Ursula von der Leyen a déjà dit non à cette proposition, à cette idée. Donc, elle s'est déjà exprimée assez clairement sur le fait qu'elle ne pourrait pas envisager ça. Donc, je crois ça,
la règle des 3%.
Oui, non, la règle des 3%, au lieu juste de ne pas appliquer cette règle s'ils sont des investissements vraiment pour le Green New Deal et dans ce contexte-là, mais elle a déjà très clairement dit non. Donc là, je crois ça, je peux pas vraiment imaginer car elle vient quand même du parti.
C'est vraiment la dimension allemande. Sa
voilà,
dimension allemande
qui est conservateur allemande. Donc
on verra comment les choses vont évoluer.
Carrefour de l'Europe. Daniel Desesquel.
Carrefour de l'Europe, la commission, la toute nouvelle commission Ursula von der Leyen. Nous sommes avec Aline Robert, rédactrice en chef du site euractif.fr, avec Jens Althoff, directeur du bureau de Paris de la Fondation Richebold, et avec Éric Maurice, directeur du bureau de Bruxelles de la Fondation Robert Schuman. Il est en ligne de Bruxelles du studio RFI. Alors, Ursula von der Leyen prend la tête de la commission à un moment relativement apaisé. La crise grecque et donc celle de la zone euro est derrière, et la crise migratoire de 2015 est dépassée, en tout cas pour l'instant, même si elle a mis en évidence des fractures entre l'Est et l'Ouest, entre le Nord et le Sud de l'Europe. Par contre, elle arrive dans un monde qui a beaucoup changé en 5 ans. La relation transatlantique s'est distendue et les ambitions commerciales et stratégiques de la Chine, pour ne prendre que cet exemple, se font sentir jusqu'aux portes de l'Europe. Alors, l'idée d'être à la tête d'une commission géostratégique, est-ce que c'est une prise de conscience que, effectivement, l'Europe doit s'affirmer? Éric Maurice.
Oui, alors ça, c'est quelque chose qui est une prise de conscience au moins depuis l'élection de Donald Trump, qui a remis en cause l'alliance transatlantique et surtout qui a créé une sorte de sentiment de vulnérabilité chez beaucoup d'Européens, et puis la montée de la Chine et combinée aux nouvelles technologies. Et on voit que si l'Europe n'impose pas d'une part sa compétitivité pour créer ses outils technologiques à elle, on le voit par exemple sur la 5G, on dépend de la technologie des autres avec à la fois les risques pour nos infrastructures numériques et puis le risque de se voir imposer des normes par les autres. Donc la prise de conscience qu'il faut prendre les devants ou en tout cas accélérer cette transition numérique pour garder en main notre destin d'une certaine manière est très forte. Et puis il y a les intérêts commerciaux au sein du multilatéralisme. Et puis on voit aujourd'hui en Syrie, dans le Golfe et aussi un peu plus loin dans tout ce qu'on appelle la région Indo-Pacifique, donc l'océan Indien, la région Pacifique, la mer de Chine, que les approvisionnements européens dépendent d'une présence européenne aussi et de la sécurité de ces routes maritimes. Et donc il faut avoir cette présence globale et donc une vision globale de toutes les politiques, qu'elles soient climatiques, numériques, industrielles, pour maintenir la place de l'Europe dans la compétitivité, pour qu'elle puisse avoir le poids économique pour imposer sa vision politique et diplomatique à l'échelle mondiale.
Aline Robert, est-ce que ça veut dire que, par exemple, lorsque l'Europe va négocier des accords commerciaux avec certaines zones du monde, l'Amérique du Sud, les États-Unis, etc., est-ce que ça veut dire que l'Europe va changer de logiciel ?
En tout cas, c'est une volonté de plusieurs pays, dont la France et l'Allemagne. Là, je pense qu'on a vraiment un consensus sur le fait qu'on a été trop naïf, à la fois sur la politique de la concurrence appliquée en Europe, qui était très rigoureuse et qui a pu nuire à certaines entreprises européennes, et à la fois sur les questions commerciales, où on avait tendance à dire « bon voilà, on ouvre tout, ça va bien se passer ». Non, dans un monde où certains recommencent à mettre des barrières tarifaires, c'est bien plus compliqué. Il faut effectivement réfléchir à essayer de défendre les intérêts européens, réfléchir aussi à la façon dont comment les autres pays peuvent investir en Europe sans que ça pose de problème. Et pour la première fois, on va avoir la création d'une direction générale de la défense, donc avec vraiment la prise de conscience de la Commission, de se dire, voilà, on a une place à tenir au niveau mondial, comment on va le faire ? Cela dit, pour l'instant, la compétence des affaires internationales, elle reste au niveau national. Ça se passe entre les chefs d'État. Les questions cruciales, c'est pas la Commission européenne qui va s'en occuper. En revanche, la Commission a un vrai premier sujet à gérer, c'est surtout la question des migrations. Et alors ça, effectivement, il faut absolument mettre les 27 d'accord. Les deux précédentes équipes, ils sont pas du tout arrivés. Mais je pense que c'est ça le gros enjeu international de Ursula von der Leyen.
Je reviens un peu sur les échanges commerciaux. Est-ce qu'il faut imaginer ce que l'Union européenne, à travers la Commission, doit dire ailleurs dans le monde on ne joue pas le jeu, et ben nous on va mettre un peu de protectionnisme. Est-ce que c'est une carte que l'on peut imaginer que l'Europe puisse jouer?
Je trouve pas que l'idée c'est de vraiment jouer une carte de protectionnisme, mais ce qu'il faut justement parce que l'Europe c'est quand même le premier marché, et là si l'Europe unifiée est vraiment le plus grand poids économique du monde entier, c'est plus grand que la Chine et c'est plus grand que les États-Unis, et il faut aussi utiliser ce poids. Il faut faire quelque chose avec, et ce qui se passe pas en ce moment. Si on a vu la semaine dernière au sommet de l'OTAN pour les 70 ans, un Trump qui se moque d'un président français Emmanuel Macron parce que lui, il veut maintenant taxer les GAFA, les entreprises de numérique en France, et il dit que en contrepartie, lui, il va taxer les vins français et tout ça, il va voir, et je vais dire, ou c'est en Allemagne et qui laisse la France et les autres tout seuls avec cette idée qui ne me semblait pas une mauvaise idée de taxer les GAFA en Europe.
C'est l'ensemble des citoyens européens qui comprennent pas que les GAFA ne soient pas taxés.
Voilà, mais en Allemagne, non. Vous avez aussi un débat là-dessus, mais le gouvernement a dit non à ça, et il laisse la France tout seul. Mais je veux dire, cette situation qu'on a vue, là, c'était quand même une scène à part, hein, parce qu'il y avait d'autres questions au milieu de ce sommet de l'OTAN, mais c'était quand même une scène qui, c'est pour cette question, assez éclairante, parce que ça montrait justement que si l'Europe travaillait ensemble sur cette question, bien sûr, les États-Unis, ils pourraient pas réagir. Agir comme ça, bien sûr. Mais il faut qu'ils se mettent d'accord. En même temps, on doit aussi dire que, justement, sur les affaires internationales, je dois dire, il y a des préoccupations. Parce que si on veut être une commission géopolitique, un Europe fort, aussi le côté français, ces derniers temps, je veux dire, Emmanuel Macron, il a aussi quand même fait beaucoup des choses qui n'étaient pas discutées avant au sein de l'Union européenne. Donc quelqu'un qui s'est dit qu'il veut être européen, qui veut que vraiment, surtout, l'Europe doit renforcer, qui bloque, par exemple, le processus d'ouvrir les négociations avec la Macédoine du Nord et aussi avec l'Albanie, ce qui était quelque chose qui voulait absolument l'Allemagne, et même il y a une grande majorité dans le Parlement allemand qui a voté pour ouvrir ces négociations, et la France a bloqué ça, ce qui est un grand problème. Aussi, cette idée d'une politique, maintenant que la France commençait à faire une sorte de rapprochement avec la Russie, un dialogue avec la Russie, tout ça, ça sont pas des choses qui contribuent à renforcer une position commune en ce moment. On va voir, d'ailleurs, il y a demain ici à Paris, quelque chose de très important dans ce contexte-là, il va voir le rencontre dans le format Normandie. Donc, c'est ce format où il va réunir ukrainien, le président russe, la chancelière allemande, Angela Merkel et Macron, pour justement la crise entre la Russie et l'Ukraine, dans l'Ukraine de l'Est, de parler de ça. Et là, il y a beaucoup d'inquiétudes, par exemple en Pologne, en Ukraine, autrement que maintenant, ça pourrait être un Macron qui s'approche trop avec une Poutine et va laisser tout seul l'Ukraine, peut-être aussi Merkel. Je crois que ça va être quand même très important de voir demain que vraiment là, le couple franco-allemand est minimum, qui est très important pour des questions comme ça, sont vraiment ensemble et essayent ensemble d'agir ensemble pour agir sur cette crise très importante européenne, qui est un peu oubliée en ce moment, mais qui existe, qui est encore là, et qui est un des grands défis aussi.
Alors on aura dès demain une esquisse d'ébauche de réponse de la solidité du couple franco-allemand à travers le dossier ukrainien. Une autre priorité de la commission Ursula von der Leyen, en tout cas l'a affirmé, c'est défendre la démocratie à l'intérieur de l'Union. Alors on sait, Aline Robert, qu'il y a des problèmes avec la Hongrie, avec la Pologne, et puis à l'extérieur de l'Union, on sait que l'Union européenne est attaquée, cyberattaquée lors d'un certain nombre d'élections, et donc le système européen doit se défendre des maux de l'intérieur et puis des attaques de l'extérieur.
Oui, la précédente commission a déjà entamé des procédures assez sérieuses envers la Pologne et la Hongrie en raison des déficits démocratiques assez sérieux, notamment dans leur système judiciaire. La question se pose aussi dans d'autres pays où la liberté de la presse peut être menacée, comme la Roumanie ou la Bulgarie.
La Roumanie a réglé ce problème avec les dernières élections, notamment présidentielles.
Et on a eu quand même plusieurs meurtres de journalistes au sein même de l'Europe.
En Slovaquie, à Malte.
Donc on a un vrai enjeu de ce côté-là, et ça la question de la justice revient à Didier Reynders, socialiste belge, donc
libéral
belge, pardon. Donc ça, ce sera vraiment un enjeu important de cette nouvelle commission, et c'est un enjeu pour la Belgique de tenir le rang en fait de l'Europe sur cette question. Et sur la question de la cybersécurité, effectivement, il y a eu des attaques qui menacent à la fois les systèmes démocratiques, mais potentiellement l'économie aussi, puisqu'on peut avoir des attaques sur les systèmes, le réseau électrique. Donc ça, c'est un enjeu qui va être confié à Thierry Breton, la question de la cybersécurité, qui va être et aussi à Maria Vestager qui s'occupe des questions numériques. Je pense que ça, effectivement, on n'a pas encore bien appréhendé.
Là encore, il y a en tout cas une prise de conscience qui est très nette.
En tout cas, on a une prise de conscience. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous savez, la commission avait mis en place une task force pour essayer de lutter contre la propagande russe. Alors voilà, c'est 11 personnes qui essayent de surveiller ce qui se passe à la commission sur toutes les fake news que la Russie envoie, en tout cas dans les pays russophones, principalement de l'Europe. Et puis, ce qui se passe aussi dans les autres pays, c'est vraiment...
C'est un peu du bricolage.
C'est du bricolage. On est tellement rien par rapport à ça. C'est vraiment un travail de longue haleine. En même temps, il y a cette prise de conscience qui existe et qu'on peut que saluer, parce que c'est un vrai problème pour la démocratie européenne.
Éric Maurice, avec l'idée de défendre la démocratie, il y a aussi, et c'est nouveau, l'idée de promouvoir le mode de vie européen. Alors la définition du portefeuille qui est, je crois, de tête revient à une grecque, vous allez me confirmer tout ça. Voilà, c'est une nouveauté. C'est vrai que pendant très longtemps, les Européens n'ont pas sorti de l'Europe européenne, n'ont pas fait preuve de dire, effectivement, le système dans lequel on vit, qui est un état de droit, où les minorités sont respectées, qu'elles soient religieuses, sexuelles, politiques, etc., etc., où il existe une économie sociale de marché, où on peut aller être dans un hôpital, et on va vous demander votre carte vitale avant de vous demander votre carte de crédit. Tout ça, ça fait partie du mode de vie européen. Là encore, une prise de conscience, il faut l'affirmer et le défendre.
Oui, alors cette appellation de promouvoir le mode de vie européen pourrait s'appliquer à l'ensemble de la Commission européenne, voire à l'ensemble des institutions européennes. Ursula von der Leyen a choisi de l'attribuer à un commissaire, donc le grec Margaritis Kinas, qui est en charge. Son portefeuille est assez large, ça va de la politique migratoire à la question de l'éducation, du sport et aussi de la formation professionnel, notamment pour les migrants, et il est en charge aussi des menaces hybrides. Donc là, on rejoint un petit peu la question de la défense de la démocratie. Donc ce portefeuille a été très critiqué parce que parler de mode de vie européen quand on intègre la question de la migration était évidemment sujet à polémique. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est de voir qu'il y a d'autres sujets qui font partie de ce portefeuille. On aurait pu imaginer que ça soit peut-être un peu différemment organisé. Maintenant, il faudra voir dans les actes comment il agit. La tentation de la forteresse Europe existe dans certains groupes politiques. La tentation de protéger l'Europe chrétienne existe aussi, notamment à Budapest. a priori, la Commission européenne qui reflète la diversité politique de l'Europe ne tombera pas dans ce piège-là, mais sur ce sujet-là, la Commission sera sous surveillance d'une partie du Parlement européen et de la société civile.
Alors, le mot de la fin, c'est tout de même prise de conscience. Allez, vous allez avoir le mot de la fin, Eric Maurice. Prise de conscience au niveau de la géopolitique, prise de conscience au niveau du climat. Après, on verra comment les choses vont se passer, mais en tout cas, on peut dire que la Commission Ursula von der Leyen est consciente de ce qu'il faut faire, en tout cas, a priori.
Oui, en cela, elle reflète le consensus des États européens depuis le Brexit, l'élection de Trump et la montée de la Chine, que l'Europe doit affirmer sa place et défendre ses intérêts. Maintenant, il faut que les États membres suivent cette ambition déclarée et portée maintenant par Ursula von der Leyen, notamment dans les discussions budgétaires et dans la mise en place de projets concrets, que ce soit en matière de défense, de politique industrielle et bien sûr de concurrence, de climat, de numérique. Donc là, on va les voir à l'œuvre. Première étape, la définition du budget pour les cette prochaine année, et puis évidemment la négociation avec le Brexit et voir si on arrive à maintenir l'unité dans la négociation qui va s'ouvrir avec Londres.
Eh bien, on suivra tout ça au Carrefour de l'Europe dans les semaines et les mois à venir. Merci à tous les trois d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Réalisation Guillaume Munier, avec le concours de Maria Fonso et de Sacha Mitchell de Courrier International. Sur la page de l'émission, des infos sur nos invités. Pour écouter ce Carrefour en podcast ou en balado-diffusion, je préfère balado-diffusion, c'est ce qu'on dit au Québec. Eh bien, deux possibilités, le site RFI.fr ou l'appli RFI Pure Radio. On reste en contact via Facebook et Twitter. Daniel Ezesquel, où que vous soyez, à Bruxelles, Paris, ailleurs en Europe, ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.
Demain sur RFI.